Voilà, chers amis, c'est une surprise, pour vous peut-être et pour nous en tous les cas, mais c'est une bonne surprise et nous sommes tellement heureux, ma femme Madeleine et moi-même, de vivre avec vous ce moment de culte qui fait du bien, il faut le dire. C'est heureux de pouvoir chanter les louanges du Seigneur et surtout le fait qu'il est notre sauveur, qu'il nous délivre, et de pouvoir, comme tout à nouveau, déposer au pied de sa croix tout ce qui nous pèse. Voilà, j'aimerais vous dire, toute la joie que nous avons à être ici, et vous remercier aussi pour l'accueil que vous avez réservé à nos enfants, Jean-Samuel et Céline, et puis tous les autres, tous les petits-enfants. Nous pensons souvent à vous. Vous savez, quand on est à la retraite, il y a quelque chose qui est tout à fait particulier, c'est que après le petit déjeuner, on a du temps. Ce qui n'est pas du tout le cas pour ceux qui doivent courir au travail ou bien au lycée ou au collège ou que sais-je encore, ou à l'école. Alors, on a du temps, on a le temps pour lire la Bible ensemble et pour prier, c'est un immense privilège. Et souvent, nous avons prié pour vous et nous continuons à le faire. Nous nous réjouissons de la présence de nos enfants parmi vous et nous prions que Dieu vous bénisse aussi en Église et puis bénisse votre témoignage aussi dans cette région. Je vais peut-être vous surprendre aussi par le passage que le Seigneur m'a mis à cœur, alors tout à fait en dernière minute, hein. Il y a un peu plus d'une heure que je sais que voilà, j'ai proposé à Jean-Samuel de le soulager un peu parce qu'il a eu une semaine très 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 chargée, comme ça arrive à nos pasteurs, n'est-ce pas? Ce passage c'est l'histoire du bon samaritain. Vous me direz, mais le bon samaritain, je vous en prie, c'est connu. C'est même passé dans le langage courant, n'est-ce pas? Les gens qui ne connaissent pas du tout la Bible utilisent cette expression, le bon samaritain. C'est même le titre de plusieurs associations, etc. Donc un thème, une histoire très connue. Mais voilà, pour nous c'est beaucoup plus qu'une très jolie histoire. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu a cela d'extraordinaire, c'est qu'elle est inépuisable, n'est-ce pas, les plus anciens d'entre nous lisent et relisent ces textes depuis leur enfance, et cela leur parle toujours. Alors, ce passage me parle encore, même si, comme pour beaucoup d'entre vous, je le connais presque par cœur, n'est-ce pas? Mais vraiment, par cœur, avec le cœur. On va voir. On va relire ce passage. Après tout, plus qu'une jolie image, une jolie histoire pour l'école du dimanche, c'est un texte des évangiles qui est unique d'ailleurs dans les évangiles et qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Alors voilà ce texte. D'habitude, j'accompagne souvent les messages de projection et notamment du texte, mais là c'est pas la peine puisque nous le connaissons tous par cœur, n'est-ce pas? Voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit pour le mettre à l'épreuve: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Alors il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Oui, mais qui est mon prochain? Alors Jésus reprit la parole et lui dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. Un lévite arriva de même à cet endroit, il le vit et passa outre. Mais un samaritain qui voyageait arriva auprès de lui, le vit et il en eut compassion. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Et le lendemain, il sortit 2 deniers, les donna à l'hôtelier et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je le paierai moi-même à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? Alors, le docteur de la loi répondit « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit « Eh bien, va, et toi, fais de même. » Alors voilà une histoire pour l'école du dimanche, pour les enfants, mais une histoire qui commence solennellement. Un docteur de la loi, donc pas n'importe qui, n'est-ce pas, en Israël, qui vient et qui veut coincer Jésus. Hein. Ah, que vas-tu répondre ? Parce que la question, c'est la question essentielle. C'est la question de l'au-delà. Après la mort éternelle ou la vie éternelle ? Une question de fond. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Alors, Jésus répond sur le même terrain. J'allais dire entre théologiens, mais Jésus, c'était quand même autre chose qu'un théologien. Mais il dit, la loi, tu la connais. Que dit la loi à ce sujet ? Et la loi, c'est une écriture, c'est la Sainte Écriture. Qui lis-tu ? Et le docteur de la loi a répondu admirablement. Admirablement. Deutéronome chapitre 6. Verset 5, le fameux « Shema Israël », « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel seul » ou « L'Éternel est un, Dieu est unique. » Alors tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, n'est-ce pas ? Alors ça, c'est ce qui est devenu la confession de foi d'Israël. Mais il y a ajouté ce passage du Lévitique au chapitre 19, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Vous savez que cette discussion avec le docteur de la loi revient aussi dans les 2 autres évangiles, dans Matthieu et dans Marc, mais tout à fait dans un autre contexte, n'est-ce pas ? C'est seulement Luc qui rapporte cette réponse du docteur de la loi. Mais c'était une réponse tout à fait remarquable. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes, c'est-à-dire toute l'écriture, c'est toute la Bible. Et c'est magnifique la façon dont ce docteur de la loi a répondu. Mais évidemment, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Bon, d'accord, ça c'est quelque chose de personnel, d'intime, c'est soi. On aime le Seigneur plus ou moins, mais quand même, on peut dire que oui Seigneur, je t'aime, n'est-ce pas ? Mais le prochain ? Là, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus délicat, parce qu'à ce moment-là, on est en spectacle aux autres, n'est-ce pas ? Alors, c'est là qu'il a, nous dit le texte, il a voulu se justifier parce qu'il se sentait en quelque sorte un petit peu accusé par ces paroles qu'il venait lui-même de prononcer et qu'il a posé cette fameuse question, d'accord, mais qui est mon prochain, n'est-ce pas? Ça, c'est typiquement juif, depuis le début du texte, on répond à une question par une autre question. C'est ce qu'a fait Jésus, c'est ce que fait le docteur de la loi, ils sont tout à fait sur le même terrain. Et c'est remarquable la façon dont Jésus a répondu en racontant une petite histoire, une parabole. C'est le propre des paraboles que de donner une réponse sans en donner une. Mais à la suite de l'histoire, on est amené à donner la réponse soi-même. Alors, cette histoire, nous la connaissons par cœur. Simplement quelques détails pour se souvenir quand même des particularités. Un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, vous savez que Jérusalem était une ville de montagne, n'est-ce pas, 750 mètres d'altitude, d'ailleurs bâti sur le mont Sion, enfin c'était pas le mont Blanc, mais c'était une petite colline, mais quand même entourée de montagnes. Et Jéricho se trouvait à 240 mètres en dessous du niveau de la mer. Alors faites le calcul, ça fait une descente d'à peu près 1000 mètres. Bon, ceux qui font de la montagne savent de quoi il s'agit, et vous savez que cette route qui descendait depuis Jérusalem jusqu'à Jéricho traversait donc les ouèdes, les vallées, etc., et puis avait de nombreux virages. C'était une route très accidentée, et c'était un parcours. Et bien sûr, au détour des chemins, eh bien, il y avait quelques brigands là qui en profitaient pour se cacher, détrousser les gens, etc. C'était une route très dangereuse. Et c'est bien ce qui s'est passé. Alors, ce pauvre homme, et dans le fond, ce n'est pas une gentille histoire pour les enfants, n'est-ce pas? C'est absolument dramatique. Ce pauvre homme non seulement se fait dévaliser, mais il est là, presque mourant par terre. Voilà ce sacrificateur qui arrive et qui se détourne, le lévite aussi. Alors évidemment, le docteur de la loi, en entendant cette histoire, a dû être assez sensible au fait que c'était un sacrificateur. Le sacrificateur était censé connaître la loi et la transmettre au peuple, d'être un modèle. Et le lévite faisait partie donc de cette tribu tout à fait à part aussi. Et eux se détournent. Pourquoi se détournent-ils? On a tendance à dire, ben oui, ils avaient autre chose à faire, ils étaient pressés, ils ne voulaient pas s'attarder dans ces lieux si dangereux, et ils sont passés. Mais on suppose aussi qu'en bon observateur de la loi, ils ne voulaient pas se souiller avec un cadavre, n'est-ce pas, s'il était mort, ou en tous les cas, en touchant le sang pour ne plus être apte à leur fonction. Alors c'est peut-être l'explication, on ne sait pas. Dans une histoire, on suppose des tas de choses, c'est à nous à réfléchir à l'histoire, on raconte l'histoire en toute simplicité, et c'est tout, n'est-ce pas? Mais ce qui est particulièrement choquant, c'est que Jésus mentionne, après le sacrificateur et l'élite, et le lévite qui faisait quand même partie de l'élite du peuple, mentionne le samaritain, et vous savez que les samaritains étaient particulièrement méprisés par les juifs. C'était ce peuple qui était arrivé de l'Est et qui s'était mélangé aux juifs, et c'était donc des gens qui étaient à moitié juifs, à moitié païens, et donc leur culte pour les juifs était une horreur, et il y avait une haine terrible entre les juifs et les samaritains. Vous vous souvenez de quelques passage des évangiles où même dans une ville des Samaritains, on n'avait pas voulu recevoir Jésus, et où deux des disciples ont dit « Mais Seigneur, fais descendre le tonnerre pour les détruire, n'est-ce pas ?» Et l'histoire de la femme samaritaine est tout à fait remarquable quand on connaît le contexte. Mais voilà ce moitié de païen, n'est-ce pas, ce Samaritain horrible et méprisé et honni, qui lui s'arrête et est saisi de compassion et il s'implique, il soigne cette personne, il la met sur son âne, il la ramène à l'hôtellerie, etc. Le lendemain, il laisse deux deniers, c'était quand même deux journées de travail, hein. Bon, une petite somme quand même, et bon, si tu as plus de dépenses, quand je repasserai, eh bien, je te paierai, c'est assez remarquable. Et tout à fait scandaleux, c'est le Samaritain qui observe la loi. Et le top de la loi, n'est-ce pas, l'essentiel de la loi, aimer Dieu et aimer le prochain. Vous voyez ces petites histoires, quand le docteur de la loi a entendu ça, il devait bouillir intérieurement. C'était extrêmement choquant. Comment est-ce qu'on peut présenter un Samaritain observant l'essentiel, le cœur même de la loi, les paroles dont dépend toute l'Écriture, n'est-ce pas? Un Samaritain, c'est impossible. Et c'est lui qui l'a fait. Ça, c'était l'enseignement de Jésus à travers ces gentilles petites histoires. Bon. Maintenant, vous le savez sans doute, la façon dont Jésus a présenté la conclusion de cette histoire est tout à fait surprenante. Enfin, on passe de surprise en surprise depuis le début, hein. Mais là, c'est surprenant et même assez subtil. Parce que Jésus dit, mais lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et c'est un renversement, parce que la question du docteur de la loi, c'était « Mais qui est mon prochain ?» Et Jésus, vous le savez, répond « Mais la question n'est pas qui est mon prochain, mais de qui toi tu es le prochain ?» Donc c'est le contraire de ce qu'on pense, on se pose la question « Est-ce que je dois aider cette personne ou non ? Est-ce que je dois donner un peu d'argent ? Est-ce que je dois aller dépanner l'un ou l'autre, etc. ?» Qui est mon prochain ? Pour la petite histoire, la question, dans Lévitique 19, le prochain, c'était un membre du peuple de Dieu et ou aussi l'étranger. Dans le chapitre 19 du Lévitique, c'est ce qu'on remarque, n'est-ce pas ? Et pour les Juifs, le prochain, c'était mon prochain juif, ceux qui faisaient partie de la communauté d'Israël, n'est-ce pas ? Mais au premier siècle, la société s'était ouverte, les Romains étaient là aussi, et derrière la question du docteur de la loi, il y avait « Mais ce soldat romain, il est mon prochain ou pas ? Est-ce que je dois l'aimer comme moi-même ou pas ? N'est-ce pas ce militaire qui est là pour m'écraser, pour prendre mes sous et puis me dominer ?» Donc le problème était crucial, n'est-ce pas ? Qui est mon prochain ? Ce n'était pas simplement qui est-ce que je dois aider ou pas aider ? Mais est-ce que je peux aimer cet ennemi qui a failli supprimer le culte d'Israël, n'est-ce pas ? Et ces païens, est-ce que je dois les aimer comme moi-même ? Donc la question était claire, était forte. Et Jésus dit, mais non, ce n'est pas là la question. Ce n'est pas de savoir si lui est ton prochain, mais toi, de qui tu es le prochain ? C'est tout à fait à l'envers. L'intérêt, enfin, la préoccupation n'est pas sur l'autre, mais sur moi. De qui suis-je le prochain ? Alors, cette conclusion est surprenante, et on se demande si il ne faut pas reprendre aussi toute l'histoire comme ça. Tout est à l'envers depuis le début. Mais si on remonte un peu, l'histoire du bon samaritain a été donnée quand le docteur de la loi a voulu se justifier, n'est-ce pas ? Jésus a dit « Fais cela et tu vivras » et lui, se sentant accusé, a répondu « Qui est mon prochain ?» Il a voulu se justifier. Est-ce qu'on peut se justifier quand on se sait accusé ? justifier quelqu'un dans le langage juridique, c'est le déclarer juste parce qu'il est juste. Lors d'un procès, l'avocat va prouver que non, il n'a pas commis ce crime, il n'a pas fait cette faute, il est juste, il est justifié en quelque sorte. Justifier, c'est pas transformer un voleur en quelqu'un de tout à fait innocent. Justifier, c'est dire, mais non, il n'est pas voleur, il est juste. Alors, lui, voulant se justifier, il faut le prendre à l'envers. On ne peut pas se justifier. On est coupable, on est pécheur, et il se savait coupable par ses propres paroles, par ces deux versets de l'Écriture qu'il avait cités. Donc là aussi, il faut le prendre à l'envers. Lui voulut se justifier, il aurait dû dire, mais je suis coupable. J'ai dit ce qu'il faut faire, mais je ne le fais pas. Et dès le début aussi, dans sa question, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la question que se posent des milliers et des milliers d'êtres humains aujourd'hui. Et c'est la question à laquelle les religions tentent de répondre. Tu veux la vie éternelle? Tu veux faire la paix avec ces puissances divines, etc., dont tu as peur? Eh bien, fais cela et cela et cela. Offre des sacrifices, célèbre des sacrements, dis des prières, fais des pèlerinages, ou que sais-je encore, n'est-ce pas? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Et dès les débuts, c'était mal parti. Il fallait prendre les choses complètement à l'envers. Non pas que dois-je faire, mais qu'est-ce que toi, tu peux faire, qu'est-ce que Dieu peut faire pour que j'hérite de la vie éternelle? Même Job, qui n'était pas juif, n'est-ce pas, qui vivait il y a si longtemps, et qui tentait aussi de se justifier, a pu confesser, je sais que mon rédempteur est vivant. Et un rédempteur, c'est quelqu'un qui rachète l'esclave. L'esclave ne peut pas se libérer lui-même. Il faut que quelqu'un d'extérieur verse la somme, parce que lui, il n'a aucun sou, il n'a aucun salaire, n'est-ce pas? Il ne peut pas s'en sortir. Il faut que l'aide vienne de l'extérieur. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Eh bien, Jésus l'a bien coincé en lui disant, fais cela, c'est tout simple, et tu vivras. Ça, c'est le principe de la loi. Fais cela, et tu vivras. Et le docteur de la loi le savait très bien, mais il savait très bien aussi que ça ne marche pas, parce qu'il a voulu se justifier. Il aurait dû savoir qu'on ne peut pas se justifier. Vous voyez que dès le début, il aurait fallu reprendre cette histoire complètement à l'envers. Et même cette parole extraordinaire, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » Qu'allons-nous répondre? Ben oui, Seigneur, il faut que je t'aime. Je m'efforce chaque jour de t'aimer. Quand je pense à toi, ah Seigneur, je t'aime. Nous devons confesser que ce n'est pas toujours brillant, hein, et qu'on pense à des tas de choses pendant la journée. Et souvent, on oublie même le Seigneur. C'est ça, aimer le Seigneur? Il faudrait presque le prendre à l'envers. Il faut le prendre à l'envers. C'est lui qui nous aime. Nous ne pouvons pas l'aimer correctement. Et parce qu'il nous aime, alors, tout naturellement, on l'aime, n'est-ce pas? On répond à l'amour. Ça, c'est l'histoire de tous les hommes et toutes les femmes, n'est-ce pas? Tout à coup, découvrir, sentir que quelqu'un nous aime, c'est ça qui nous touche, c'est ça qui fait naître l'amour en nous, n'est-ce pas? Se savoir aimer. Alors, tu aimeras, bien sûr, c'est la parole de Dieu, Deutéronome 6, c'est clair, c'est net, tu aimeras, je dois aimer Dieu. Mais qui de nous peut dire, j'aime Dieu? Oui, je t'aime Seigneur, mais comment? Bien mal, n'est-ce pas? Quand on est en couple, on sait que c'est pas facile de s'aimer. Mais quand on peut répondre à l'amour, alors ça change beaucoup. Tu aimeras. Seigneur, c'est toi qui m'aimes. N'est-ce pas ? C'est toi qui m'aimes. Donc voilà cette histoire qui n'a l'air de rien et qu'il faut prendre aussi tout à fait à l'envers, n'est-ce pas, dès le début. Aimer, c'est une grâce. C'est découvrir la grâce. C'est découvrir que Dieu nous aime malgré ce que nous sommes, malgré le fait qu'on pense tout un tas de choses et pas à lui, malgré le fait qu'on le peine souvent, qu'il a tant de déceptions avant nous, mais il continue à nous aimer. Il est fidèle. Alors si on réalise ça, alors oui, on répond à son amour par l'amour. Vous voyez, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et ce qui est aussi important dans tous ces récits des évangiles, c'est que dans le fond, ce qui est en cause, c'est pas si je dois faire du bien à mon prochain ou pas. Ce qui est en cause, c'est la personne même de Jésus, n'est-ce pas ? Si Jésus raconte ça, c'est pas simplement une leçon de morale. Ben maintenant, tu vas faire la même chose, hein ? Tu vas être le prochain de celui qui a besoin de toi. C'est beaucoup plus que ça. C'est pour donner un enseignement sur lui-même, sur sa personne. Dès le début de la Bible, quand la délivrance approche, par exemple au début de l'Exode, quand le peuple doit être délivré d'Égypte, Dieu se révèle et il dit à Moïse du sein du buisson ardent, j'ai entendu, je me suis souvenu et je descends, je viens, n'est-ce pas ? C'est lui qui vient, c'est lui qui dit non, je ne suis pas là-haut dans mon ciel, je ne vous ai pas oublié, mais je vais intervenir. Voilà comment tout commence, toutes les délivrances commencent, c'est Dieu lui-même qui intervient. Et Jésus lui-même a quitté la gloire de son Père, il est venu pour devenir notre prochain en quelque sorte. Lui l'a fait, lui a été le modèle, le vrai bon samaritain, n'est-ce pas ? Donc toute cette histoire nous dit aussi quelque chose sur la personne de Jésus. Comment il s'est fait notre prochain ? D'ailleurs, il y a un petit détail dans le texte, n'est-ce pas, quand, au verset 36, quand il est dit « Lequel de ces trois, j'ai dans ma traduction, te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» Le verbe dans le texte original employé, c'est le verbe « devenir », n'est-ce pas ?« Lequel de ces trois te semble être devenu le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» Et c'est ainsi que Jésus, lui, est devenu notre prochain, en quittant la gloire de son Père et en venant ici-bas prendre notre condition pour montrer son amour pour nous tous. Et c'est une grande leçon donc sur cet amour que nous devons porter à Dieu. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est dit plusieurs fois dans l'Écriture. Nous l'aimons parce que lui, avant, alors même que nous étions ennemis ou que nous ne faisions pas attention à lui, il nous aimait et il s'est révélé à nous. Et il est venu, et en Jésus-Christ, il est venu aussi mourir sur la croix pour nous. Donc, notre amour pour Dieu ne peut répondre qu'à son amour, que si on a compris son amour, si on l'a saisi par la foi. Mais vous savez qu'en tant que chrétiens, nous voulons être disciples du Christ. Être disciple, c'est le suivre, c'est l'imiter, entre guillemets, c'est faire ce qu'il a fait, c'est vivre comme il a vécu. Si nous l'aimons, quand on aime quelqu'un, on finit par lui ressembler, et on boit ses paroles, ses actes, on veut l'imiter, on veut vivre comme lui. Et qu'est-ce que ça signifie pour nous ? Devenir le prochain de l'autre. C'est pas seulement Oui, enfin, c'est déjà bien, mais enfin, c'est pas seulement avoir un regard de compassion pour celui qui souffre, qui est là à côté de moi et que je n'ai pas remarqué parce que j'ai tant d'autres soucis, par ailleurs, n'est-ce pas ? Qui se débrouille après tout, puis il y a tous les services sociaux, etc. Aujourd'hui, c'est pas normal, n'est-ce pas, d'être comme ça au bord de la route. C'est pas seulement parce que tout à coup, on va avoir un regard de compassion pour celui qui est proche de nous, mais devenir le prochain, c'est beaucoup plus que ça. C'est aller vers, n'est-ce pas ? Voyez la façon dont le bon samaritain s'est impliqué. Voyez la façon dont Jésus, lui, s'est impliqué pour nous sauver, ce que cela a représenté de quitter le ciel, de naître, de grandir, de devenir un homme, de faire face à toutes les difficultés que nous connaissons aussi nous-mêmes, n'est-ce pas ? Devenir, aller vers l'autre, se déplacer. C'est ce que Jésus a fait et c'est ce que nous devons aussi faire. Alors j'ai appris que cet après-midi, on aurait une après-midi un peu spéciale, dite missionnaire, c'est ça, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, avec nos amis Champandal, n'est-ce pas ? Et oui, j'ai fait leur connaissance il y a quelques mois, juste avant le déménagement de nos enfants, et j'ai été assez frappé, n'est-ce pas, par l'histoire de ces chers amis, et ils vont nous présenter ce à quoi le Seigneur les a appelés, et quand on pense à ces populations là du désert, dans l'Atlas, avec ma femme, nous sommes allés au Tchad pendant quelques années, et on a vu ce que c'était que des montagnes désertiques, n'est-ce pas, un peu comme celles d'ailleurs entre Jérusalem et Jéricho, et ces populations oubliées, méprisées même par leurs propres concitoyens, n'est-ce pas ? Et s'en préoccuper et y aller. C'est cela, aimer. Et pourquoi le faire ? Par compassion simplement. Vous savez, l'humanitaire, c'est pas facile. Quand nous étions au Tchad, on a vu plusieurs jeunes venus pour faire du bien et eux-mêmes étaient pleins de moyens et de dévouement et voulaient faire quelque chose. Et combien sont repartis déçus, dégoûtés par la situation, n'est-ce pas, et voyant que finalement ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour ces populations, n'est-ce pas. Il faut plus que ça. Il faut aimer. Et moi je trouve beau aussi cette image, n'est-ce pas. Il faut y aller. Il faut se déplacer. Pas simplement avoir pitié, ça ne suffit pas, n'est-ce pas ? C'est ce que le Seigneur a fait, et que Dieu nous aide aussi à non seulement avoir enfin un regard de compassion pour ceux qui souffrent et qui sont tout près de nous, le prochain c'est celui qui est proche, mais nous-mêmes à devenir le prochain, comme ce Samaritain l'est devenu et comme le Seigneur lui-même l'est devenu pour que nous soyons sauvés. Donc voilà quelques réflexions avec cette histoire tellement connu, mais qui a beaucoup de profondeur et qui doit nous faire réfléchir, parce que c'est aussi la vie éternelle, toute l'éternité, tout l'au-delà qui est en jeu. Et prions ensemble. Seigneur, comme l'apôtre Pierre, nous voulons te dire que nous t'aimons, mais tu insistes, parce que tu as raison d'insister, Seigneur. Notre amour est bien faible, notre amour est loin d'être parfait. Nous ne savons pas vraiment ce que c'est que d'aimer. Mais toi, tu le sais, Seigneur. Tu es venu jusqu'à nous et tu prends soin de nous jour après jour. Et tu veux nous sauver pour toute l'éternité. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te prier de nous aider à comprendre toujours mieux cet amour que tu as manifesté envers nous, pour que nous puissions nous-mêmes un peu vraiment t'aimer. Aide-nous avec ceux qui nous sont proches, Seigneur. Les tout proches, nos conjoints, nos enfants, mais aussi nos voisins, le reste de notre famille, nos collègues de travail. Seigneur, c'est si difficile d'aimer. Mais que, en considérant ce que tu as fait pour nous et rempli de cet amour que seul l'Esprit Saint peut semer dans un cœur, nous puissions enfin, Seigneur, aussi aimer convenablement et pratiquement. Secours-nous, Seigneur, et veuille nous bénir aussi en cette journée, étendre ta bénédiction sur nos familles, nos bien-aimés. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.